Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Si et seulement si la situation continue à se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Pas de tour de vis dans l'immédiat. Jean Castex place sous surveillance renforcée 20 départements, dont ceux de l'Île-de-France. Il pourrait rejoindre la liste des territoires confinés le week-end. Une option rejetée d'emblée par la mairie de Paris. Elle propose au gouvernement une mesure plus radicale, un confinement strict de 3 semaines dans la capitale. Une nouvelle étape dans la campagne vaccinale. Les généralistes peuvent à leur tour vacciner leurs patients. Reportage dans un cabinet à Lyon. Le confinement au printemps dernier n'a pas engendré de baby-boom. Bien au contraire, le nombre de naissances a baissé de 13% en un an, du jamais vu depuis 1975. Dans ce journal également, l'assureur AXA va devoir indemniser un restaurateur pour ses pertes liées au Covid. Le témoignage d'un maire qui dérange les dealers. Sa voiture a été caillassée. Et puis le rugby, France-Écosse n'aura pas lieu dimanche. Match reporté après un nouveau cas positif détecté chez les Bleus. La météo, elle sera toujours agréable demain, même s'il y aura quelques pluies dans l'ouest et une très légère baisse des températures, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,24% à 5 783 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview éco, dans 20 minutes, les négociations commerciales entre producteurs et grandes distributions touchent à leur fin et la guerre des prix est encore plus forte avec la crise. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Michel Biérot, l'un des gérants de Lidl. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jean Castex se donne donc encore quelques jours avant de trancher, le temps de concerter localement. Illustration de la nouvelle stratégie du gouvernement, le cas par cas, seul moyen d'éviter un reconfinement national. Une approche ciblée qui concerne tout de même 1/5 de l'Hexagone, vu que le Premier ministre a placé ce soir 20 départements en surveillance renforcée.
Toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loire. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'envisager des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Samedi de la semaine prochaine donc, 20 départements pourraient rejoindre Nice et Dunkerque dans la liste confinement le week-end. Anne Le Gall, sur le plan sanitaire, qu'est-ce qui justifie cette mise en garde du Premier ministre ?
Eh bien, Jean Castex l'a d'emblée annoncé. Le devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire se dégrade. Il l'a rappelé. Les 30 000 cas positifs en 24 heures, du jamais vu depuis novembre. Il se passe quelque chose, a indiqué le Premier ministre, en raison des variants plus contagieux. Le virus gagne du terrain presque partout en Europe. Tout cela dans un contexte où la pression hospitalière est déjà très forte. C'est sur ce constat que 20 départements se retrouvent donc en surveillance renforcée et pourront éventuellement faire l'objet de restrictions comme Nice ou Dunkerque à partir du 6 mars. Un point donc sera fait la semaine prochaine si la situation continue de se dégrader.
Dégradation qui semble hautement probable vu que les variants représentent d'ores et déjà la moitié des contaminations en France. Mais pour autant, tout n'est pas noir. Anne, le Premier ministre a aussi évoqué des signes d'espoir.
Voilà, il y a l'arrivée de nouveaux traitements à l'hôpital avec des anticorps monoclonaux. Il y a les tests salivaires dans les écoles qui permettront de tester 6 fois plus d'enfants qu'aujourd'hui. Et puis, il y a l'espoir aussi de la vaccination qui se poursuit fin février. 3 millions de Français auront été vaccinés. Les dernières données d'efficacité et de tolérance des 3 vaccins disponibles en France sont rassurantes. D'ici fin mars, ce sont les 2/3 des plus de 75 ans qui auront reçu leur injection. Le vaccin sera proposé à tous les plus de 50 ans d'ici mi-mai. Et déjà, l'âge moyen des patients en faisant des formes graves a diminué de 6 ou 7 ans en moyenne.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et dans les 20 départements mis sous surveillance, il y a Paris. La mairie socialiste ne veut pas d'un confinement le week-end. Elle propose au gouvernement une mesure beaucoup plus radicale, un confinement strict de 3 semaines dans la capitale, avec pour objectif, à l'issue, de tout rouvrir, bars et restaurants compris. Pour Anne Souiris, l'adjointe à la santé de la mairie de Paris, il faut frapper fort et tout de suite.
L'idée est simple, hein, c'est de se dire qu'à partir du moment où, depuis la deuxième vague, on n'a pas du tout réussi le pari qui était fait avec un semi-confinement, d'arriver à faire en sorte qu'on puisse retourner à un état à peu près normal. Donc, à partir de ce moment-là, nous proposons, nous à Paris, de faire un vrai confinement de 3 semaines. Proposer un confinement de 3 semaines. Pendant ce temps-là, on réorganisera la suite des événements pour repartir sur des bonnes bases et avoir cette fois-ci une vraie préparation, une vraie planification de la suite pour que ce virus qui va rester encore jusqu'à la fin d'une vraie vaccination, une vraie période de vaccination pour tous, eh bien pendant cette période-là, on pourra vraiment préparer, faire avec les gens, faire des écoles qui fonctionnent, faire aussi, avoir aussi une vie culturelle fonctionnelle. On préfère y aller pour pouvoir après s'organiser.
L'adjointe à la santé de la mairie de Paris, jointe par Nicolas Feldman pour Europe 1. On en parlait il y a quelques minutes, la campagne vaccinale commence à porter ses fruits et elle vient de franchir une nouvelle étape importante. Depuis aujourd'hui, les médecins de ville peuvent vacciner les patients à risque de 50 à 64 ans. Jean-Luc Boujon a pu assister pour Europe 1 aux premières injections dans le cabinet d'une généraliste lyonnaise.
Pour le docteur Florence Lapica, c'est la 4e injection de la journée.
Ça va ?
Oui.
Ouais.
Pas de problème.
Pas de problème ? C'est supportable ?
Oui, ça va.
Allez, c'est tout bon.
Face à elle, Lionel, 62 ans, un de ses patients habituels qui souffre de diabète et d'hypertension. Il fait donc partie de la population à risque ciblée par ce vaccin AstraZeneca. Un vaccin moins efficace, il faut donc, pour le médecin, expliquer au maximum avant l'injection.
Est-ce que vous avez des questions ?
C'est sûr,
il y a, c'est pas un doute, mais simplement une efficacité qui est autour de 60-70%, c'est-à-dire qu'il reste un petit pourcentage quand même de risque de l'attraper encore.
Il avait besoin d'explications et d'être rassuré, et c'est normal. Je crois que les patients ont besoin d'informations et d'informations claires. Effectivement, il faut le dire aux patients, ça ne protège pas à 100%. Et il y a des petits risques quand même d'avoir des courbatures de la fièvre. Donc c'est pareil, il faut prévenir les patients.
Lionel a fini par être convaincu, surtout dans sa situation.
Il y en a beaucoup, qui existent, mais bon, faut le faire. Là, je suis malade à risque, quoi. C'est du diabète, j'ai fait un AVC.
Donc faut pas rigoler avec le Covid.
Ah bah non, faut faire attention, quoi.
Et il reviendra dans 9 semaines pour la seconde injection. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et si en France, nous sommes des millions à attendre notre tour pour recevoir une précieuse injection, c'est tout le contraire en Bulgarie. Face aux réticences de la population très sceptique sur les vaccins, le gouvernement bulgare a soudainement décidé d'abandonner la stratégie des groupes prioritaires. Les centres de vaccination sont désormais ouverts à tous, aux nonagénaires comme à leurs arrière-petits-enfants. Et d'enfants, justement, Françaises et Français en font moins, ceux qui pensaient que le confinement du printemps dernier allait engendrer un baby-boom en sont pour leurs frais, car c'est du jamais vu. Depuis 1975, selon l'INSEE, le nombre de naissances a chuté de 13% en janvier, Virginie Riva.
Oui, en janvier 2021, on compte 53 900 naissances, soit 8 000 de moins qu'en janvier 2020. Alors janvier, si vous faites le calcul, c'est 9 mois après mars. Ça correspond donc en France au confinement et au moment où le nombre de décès quotidiens dus au Covid ne cessait de croître. C'est donc la forte incertitude liée à la période qui pourrait expliquer cette chute, mais aussi d'autres éléments liés, avance l'INSEE, comme la peur des mères de contaminer leur nouveau-né et la fermeture des centres de procréation médicalement assistée, naissance qui représente 3,5% du nombre total chaque année. Alors, il faut bien avoir en tête que depuis 2015, il y a une baisse tendancielle des naissances de l'ordre de 2,5% entre 2019 et 2020. Mais là, pour retrouver le même décrochage, il faut remonter à septembre et octobre 1975, conséquence du premier choc pétrolier qui marque la fin des 30 Glorieuses et du baby-boom. Les naissances chutaient alors de 14%. Sans atteindre les mêmes ampleurs, les naissances avaient également diminué lors des récessions économiques du début des années 80 et 90. L'INSEE va donc scruter avec beaucoup d'attention le prochain bulletin des naissances fin mars et des mois suivants pour savoir si le phénomène s'installe, voire s'amplifie.
Merci Virginie Riva du service Société d'Europe 1. Une première victoire pour les restaurateurs en conflit avec leur assureur pour les pertes liées à l'épidémie. AXA a été condamné à indemniser un restaurateur marseillais. Décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui pourrait faire jurisprudence, Clément Le Saffre.
Ah oui, car c'est la première décision sur le fond du dossier. Jusqu'ici, les tribunaux de commerce qui avaient été saisis par des restaurateurs s'étaient uniquement prononcés sur la forme, autrement dit sur le flou qui entoure l'écriture d'une clause présente dans certains contrats, clause qui mentionne une indemnisation en cas d'épidémie. AXA argue que cela concerne les épidémies restreintes à un seul établissement type salmonellose, mais les restaurateurs, eux, s'estiment lésés par cette interprétation et donc, pour la première fois, un juge a tranché sur le fond. Sans précision supplémentaire, la mention d'une épidémie vaut pour les pertes liées au Covid-19. Pour Maître Tertian, qui a plaidé le dossier, c'est une victoire pour tous les restaurateurs.
La particularité de la décision qui est rendue aujourd'hui, c'est qu'elle a vocation à faire jurisprudence d'abord dans le ressort de la Cour d'appel, où il y a quand même une vingtaine de tribunaux de commerce, et puis aussi elle va avoir une portée nationale. Et j'incite tous les assurés de cet assureur à engager le même type de procédure, parce qu'il serait temps maintenant qu'il fasse son vrai métier, qui est d'indemniser les sinistres de ses assurés.
Et forcément, cette décision est un coup de massue pour les assureurs. En tout, il y aurait 15 000 restaurateurs concernés par cette clause épidémie en France, ce qui ouvre la voie à une indemnisation potentiellement massive. AXA n'a pas souhaité s'exprimer, mais a indiqué dans un communiqué qu'il allait étudier les motivations de la décision de la Cour d'appel.
Clément Le Saffre, une nouvelle bagarre entre bandes rivales aujourd'hui dans l'Essonne, la troisième en quatre jours. Ça s'est passé à Évry, une trentaine de jeunes se sont affrontés et l'un d'entre eux a été blessé par un coup de couteau. Son pronostic vital n'est pas engagé, trois personnes interpellées. Une autre bagarre a été évitée de justesse à Savigny-sur-Orge, cette fois stoppée avant même qu'elle ne commence par les policiers. Et des policiers, il y en aura 300 de plus à Marseille, dont une centaine dès cette année, annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu aujourd'hui dans la deuxième ville de France. Ces renforts serviront en priorité à lutter contre le trafic de drogue. Une lutte dont le maire de Bron, en banlieue lyonnaise, a fait l'une de ses priorités. Et à l'évidence, ça ne plaît pas aux dealers. Il y a un mois, Jérémy Bréau avait été visé par un tag appelant à sa décapitation. Eh bien, hier soir, les intimidations sont montées d'un cran, insultes, menaces et caillassage de son véhicule. Écoutez.
On nous a prévenu qu'il y avait une voiture qui était en train de se faire caillasser dans le parking juste à côté. On s'est vite douté que certainement que ça devait être la nôtre, celle de la ville. Et puis donc on s'est rendu sur place. Effectivement, on a vu que la voiture de la ville était défoncée. Il y avait un groupe d'individus d'une dizaine de personnes, une grosse vingtaine d'années à peu près. Et donc là, il y a eu un déferlement de menaces, à la fois de menaces physiques, aussi d'insultes et puis aussi de jets de projectiles. J'ai vu passer au-dessus de nos têtes une canette. On a vu des cailloux, on a vu également aussi des morceaux de bois.
Vous avez eu peur ?
Sur le coup, non, parce que dans le feu de l'action, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. Mmh. C'est une fois en revanche quand vous rentrez chez vous et ce matin au réveil, oui, effectivement, ça brassait. Ce ne sont pas des moments qui sont faciles à vivre. Maintenant, voilà, moi, je suis déterminé comme jamais. Ça veut dire que tout ce que l'on met en place depuis bientôt 8-9 mois, depuis l'élection, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on gêne. On gêne une extrême minorité, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une extrême minorité d'individus.
Vous gênez les trafics ?
Oui, on va dire les choses, c'est ça. Les opérations communes, police municipale, police nationale, qu'on fait régulièrement, on gêne leur business. Et là, le message ce matin, c'est qu'on ne va pas se laisser intimider, on ne va pas se laisser. D'être soumis et puis on va continuer à reconquérir certains territoires perdus.
Le maire des Républicains de Bron, Jérémy Bréau, avec Jean-Luc Boujon. Je précise que l'élu va porter plainte. C'est assez rare pour le souligner, une entreprise française du secteur de l'aérien a publié des comptes dans le vert pour 2020. Le groupe Safran a dégagé 352 millions d'euros de bénéfices malgré la pandémie, grâce, dit-il, à des mesures d'austérité drastiques. L'austérité, voilà un mot que ne connaissent pas les armées. Malgré la pandémie, les dépenses militaires mondiales ont atteint l'année dernière un nouveau record, 1830 milliards de dollars, dont la moitié ont été dépensés rien que par les États-Unis et la Chine. Situation très tendue en Arménie, l'état-major de l'armée réclame la démission du gouvernement, ce que refuse le Premier ministre qui dénonce un coup d'état militaire. Ce dernier a participé cet après-midi à une grande marche au milieu de 20 000 de ses partisans dans les rues de la capitale, Erevan. Une crise qui intervient 4 mois après la défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan dans le conflit du Nagorno-Karabakh. Retour en France avec ces 10 ans de bonus que viennent d'obtenir nos vieux réacteurs nucléaires semis en service dans les années 80. L'autorité de sûreté nucléaire les autorise à faire passer leur durée de vie de 40 à 50 ans, mais il y a des conditions, Élise Dangean.
Et oui, pour obtenir un tel sursis, EDF va devoir réaliser une série de tests afin d'assurer la sûreté de ses 32 réacteurs répartis sur 8 centrales nucléaires. Des tests qui vont être menés pendant ce qu'on appelle les visites décennales. Elles sont déjà en cours dans certaines centrales. C'est le cas par exemple à celle du Bugey, près de Lyon. S'en suivront des travaux qui s'étaleront sur plusieurs années pour améliorer les installations avec plusieurs objectifs. D'abord, réduire les conséquences d'éventuels accidents, notamment les plus grave avec fusion du cœur du réacteur, mais aussi renforcer la protection face à des agressions type séisme, inondation ou encore canicule, des phénomènes peu pris en compte il y a encore 40 ans.
Merci Élise Dangean. Cela semblait inévitable, c'est désormais officiel. Le match de rugby France-Écosse qui était prévu dimanche est reporté. Décision du comité du tournoi des Six Nations après la découverte d'un nouveau cas de Covid au sein du 15 de France, le 16e tout de même depuis 10 jours. La rencontre va donc devoir se jouer à une date ultérieure et c'est un nouveau casse-tête, Simon Rubin.
Exactement, parce qu'un match reporté des semaines, voire des mois plus tard, c'est très mauvais pour le spectacle. Ça prive le public d'une dernière journée exceptionnelle pour connaître le nom du vainqueur fin mars. Voilà pourquoi le comité des Six Nations a pendant un temps songé à faire jouer ce France-Écosse le 7 mars, la semaine prochaine. Décalé d'une semaine seulement, c'est pratique, mais les Écossais n'étaient pas favorables à cette décision parce qu'à cette date, leurs joueurs sont dans leur club et puis surtout, rien ne garantit qu'à cette date-là, les Bleus seront sortis d'affaires. Alors, quelle date pour rejouer ce match? Eh bien, peut-être celle du 3 juillet, date à laquelle les compétitions nationales et internationales seront terminées depuis une semaine. On n'est donc pas prêt de connaître le nom du vainqueur du tournoi. Alors, en attendant cette décision, les Bleus, eux, eh bien, vont devoir se soigner, en tout cas s'isoler. Après ce 16e cas positif, c'est toute l'équipe qui est cas contact, puisque le nouveau membre du 15 de France contaminé serait bien un joueur, selon nos informations. Le prochain rendez-vous pour le 15 de France, c'est donc désormais l'Angleterre à Twickenham le 13 mars prochain.
Simon Rubin. Et puis en foot, pas de miracle pour le LOSC, battu ce soir 2-1 sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. Les Lillois sont donc éliminés de la Ligue Europa. Ils ne verront pas les huitièmes de finale. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps demain sera plus nuageux.
Oui, beaucoup plus nuageux. En effet, Julien, de la Gironde jusqu'à la région parisienne, en passant par le centre Val-de-Loire, le ciel est très couvert dès demain matin. En fait, les nuages arrivent dans la nuit là et ils vont vraiment s'installer demain matin, avec d'ailleurs sur toutes ces régions des petites pluies qui vont toucher aussi la Bourgogne, le Grand Est, la Champagne. Ailleurs, nous avons un ciel plutôt couvert, mais le temps reste sec. Dans le sud, attention aux entrées maritimes sur le golfe du Lion encore, comme depuis plusieurs jours. Et puis vous verrez, le ciel va bien s'éclaircir dans l'après-midi. Dans l'après-midi, justement, les pluies vont se concentrer sur le centre Val-de-Loire, sur l'île de France et la Champagne. Au bord de la Manche et le long de la façade atlantique, le ciel s'éclaircit et c'est le retour du soleil dans l'après-midi. Et puis dans le sud-est, après la dissipation des brouillards matinaux, le temps est tout de même assez bien ensoleillé, sauf sur la côte basque. Sur la côte basque, on a encore quelques entrées maritimes qui viennent masquer le soleil. Les températures, elles baissent avec 1 à 10 degrés demain matin. Puis dans l'après-midi, là, ça va bien baisser avec 10 à 14 sur la moitié nord. On aura par exemple 12 degrés à Paris demain, alors qu'on en avait 17 aujourd'hui. Et puis dans la moitié sud, 15 à Aurillac, 17 à Marseille et Lyon, 18 à Montpellier et 20 degrés pour Nîmes.
Merci Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview écho. Les négociations commerciales entre producteurs et grandes distributions touchent à leur fin et la guerre des prix est encore plus forte avec la crise. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Michel Biérot, l'un des gérants de Lidl. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street rechute ce soir dans le sillage des valeurs de technologie.
Oui, le sursaut d'hier a rapidement tourné court. Ça retombe lourdement même. Le Dow Jones, moins 1,75%, 31 402 points. Le Nasdaq perd 3,52%, 13 119 points. Effectivement, c'est Tesla qui emmène un petit peu tout le monde dans sa chute du côté des valeurs de technologie. Moins 8% ce soir, $682. Le constructeur de voitures électriques va suspendre la production de son modèle 3 dans son usine californienne pendant 2 semaines. Les raisons pour l'instant sont plutôt obscures. Hein. C'est un mail interne qui a fuité en fait. Et donc ça a fait baisser fortement Tesla ce soir. Tout le secteur technologique donc est en baisse de l'ordre de 3 à 4%. On a Apple moins 3,4%, 121 $. Amazon moins 3,2%, Google moins 3,2% aussi, Netflix moins 1,2%, Facebook perd 3,6% à 254 $, IBM recule plus modestement de 0,6%. Il y a aussi des dégagements sur le pétrole, moins 0,1%, 63,35 $ le baril. Exxon, du coup, perd 1,6%, 55,76 $. Tout baisse hein, en fait ce soir, même le Bitcoin sous les 50 000 $, 49 150. Sur les devises, c'est beaucoup plus calme. L'euro revient sur les 1,2170 face au billet vert.
La Bourse de Paris a de nouveau plafonné sous les 5 800 points, en repli de 0,2% en clôture.
Oui, on n'y arrive pas. Hein. Sur les 5 800, ça ne passe pas vraiment. Donc en baisse finalement, le CAC 40, moins 0,24%, 5 783 points. Les publications d'entreprises ont encore été très nombreuses. Parfois mal reçu par le marché, c'est le cas de SES. Le groupe satellitaire a chuté de 6% après des résultats déficitaires à hauteur de 86 millions d'euros. Toujours dans le secteur aéronautique, Safran a perdu 3,8%, 116,35 €, après une chute de 55,9% de son résultat opérationnel. Dans le même secteur, Airbus, en repli, donc recul de 3,5%. Thales aussi perd 1%. Eutelsat, moins 1% aussi ce soir.
Exception du jour, AXA a nettement progressé après l'annonce de ses comptes.
Oui, plus de 4% de hausse. 4,2% AXA, l'assureur, à 21,15 €, malgré des profits en repli de 34% en 2020. À 4,3 milliards d'euros, la direction affiche sa confiance pour l'année qui commence en vue d'une sortie de crise au second semestre. AXA en profite ce soir pour rebondir de plus de 4%, 21,15 € donc à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Donc le DAX à Francfort, moins 0,7, Bruxelles, moins 0,17, Milan, moins 0,15, Londres, moins 0,11% et le CAC 40 en baisse de 0,24%, 5 783 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain Didier. 22h22 sur Europa, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Michel Biro.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes un des gérants de Lidl, alors on connaît tous Lidl, hein, la célèbre chaîne de grande distribution. On parle avec vous ce soir de ce que l'on appelle les négociations commerciales. Ces négociations permettent de définir les prix de quasiment tout ce qu'on va acheter dans nos magasins dans les mois à venir. Ces négociations doivent se terminer dimanche soir. Elles sont, semble-t-il, encore plus tendues que d'habitude à cause notamment du Covid. Ce qu'on raconte, c'est que vous, les distributeurs, Lidl, Leclerc, Auchan, Carrefour, Casino, on pourrait tous les citer, vous voulez faire baisser les prix pour avoir des prix qui répondent à l'éventuelle crise sociale que nous allons avoir dans les mois à venir. C'est vrai ?
Alors, je pense qu'il faut surtout pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que c'est pas le cas. Alors, il y en a effectivement, j'ai entendu comme vous, qui demandent des déflations pour certains importantes, pour d'autres indécentes et irresponsables, je pense.
Alors soyons très concrets, hein. Les chiffres moyens qui nous ont été communiqués à Europe 1 il y a de cela quelques jours, qui étaient les chiffres de début de discussion, c'était 1,33 € de baisse de prix demandé aux grands industriels et un petit peu moins d'1% aux PME. Là, c'est la moyenne. Vous dites, vous, que Lidl, vous n'avez pas fait une seule proposition de prix en baisse?
Alors je ne dis pas ça parce que j'ai pas de souci à le dire. Des industriels, des grands industriels comme Coca ou comme d'autres procteurs qui n'ont rien à voir avec le monde agricole, en tout cas qui ne transforment rien, qui puissent provenir du monde agricole, bien évidemment qu'on discute pas de la même façon. Par contre, il faut juste rappeler une chose, Emmanuel, c'est que Lidl on fait 12% de marque nationale. Et ces négociations du 1er mars ne concernent uniquement les marques nationales. Alors vous avez raison, c'est 80% de l'alimentaire qui est vendu en GMS.
Alors GMS, c'est la grande surface, les grandes distributions.
La grande distribution, exactement. Ce qu'il faut bien noter, c'est que il ne se passera rien. C'est pas dans les 4 derniers jours où il va se passer des choses. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a qui ne jouent pas le jeu de la transparence, qui ne jouent pas le jeu de l'aide au monde agricole, qui en a fortement besoin, qui pendant 2 ans, je vous le rappelle, était en attente très forte de la loi Egalim, du fameux ruissellement qui devait s'opérer, et qui ne s'est pas opéré. Et qui
en
ne
tout cas, tous les pas. Acteurs nous disent, que ce soit la grande distribution, que ce soit les fournisseurs et les producteurs, il y a un seul point sur lequel tout le monde se met d'accord, c'est que cette loi Egalim, elle a volé à l'aune du Covid, parce que la guerre des prix est repartie dans la grande distribution.
Alors moi, j'ai une autre analyse de la loi Egalim sur la loi Egalim. C'est qu'aujourd'hui, les 80% de l'alimentaire qui est vendu dans les grandes enseignes dont on a parlé sont régis par deux lois aujourd'hui. Une première, donc Egalim, qui existe depuis 2 ans, qui demande de prendre en considération les coûts de production des éleveurs. Et il y a une deuxième loi qui existe depuis bien plus longtemps, qui est la loi LME, la loi de modernisation de l'économie, qui, elle, impose aux distributeurs de négocier d'une certaine façon les marques. Et nous sommes le seul pays au monde à devoir les négocier de cette façon-là. C'est-à-dire, on doit partir d'un tarif général et négocier des services. D'où l'apparition de centrales internationales de négociation.
Quand on dit des services, c'est par exemple la possibilité de faire des promotions, ce genre de choses derrière.
La mise en avant d'un produit, la logistique, la présence dans tous les magasins ou pas, ou dans la moitié, etc. Tout ça, c'est des services. Mais ça, si vous voulez, ces deux lois, pour moi, ne peuvent pas coexister. Donc l'une ne fonctionnera pas, elles sont antinomiques, elles ne peuvent pas vivre ensemble. Donc soit il faut dépoussiérer très rapidement la LME pour avancer sur Egalim, ou alors mettre Egalim avec LME et en faire une grande et belle loi avec des contraintes, avec des sanctions, et pour mettre tout le monde, j'ai envie de dire que tout le monde soit logé à la même enseigne, sans mauvais jeu de mots, et que enfin on puisse rémunérer correctement le monde agricole.
Mais la seule certitude là, c'est que le monde agricole, cette année, qui a lui-même de grosses difficultés parce qu'il n'a pas le débouché des restaurants, des bars, donc beaucoup de leurs produits qui ne se vendent pas en aussi grande quantité que ce qui était prévu, ils ont encore moins d'argent. Ils en ont pourtant déjà pas beaucoup à la base.
Le prix du lait a baissé dans la cour des fermes en 2020 par rapport à ce qu'ils avaient en 2019. Lidl, ça fait 3 années consécutives qu'on met de l'argent sur la table pour les industriels. Après, on va vous expliquer qu'il y a le mix produit, qu'il y a 40% ou 45% qui partent à l'export et que donc il faut réguler ça et que l'export a baissé du fait du Covid, etc., etc. Mais je suis désolé, on a mis l'argent sur la table et pourtant ça n'arrive pas. Donc, si on ne légifère pas, si on ne change pas les lois...
Est-ce que vous dites, ça veut dire quoi ? C'est que ça reste l'argent que vous avez mis sur la table, ça reste du côté des grands noms du lait, on peut dire Lactalis et autres.
Ben moi je ne sais pas où il va l'argent, en tout cas nous on l'a payé, et je peux le prouver, je l'ai prouvé, je l'ai démontré auprès des pouvoirs publics, auprès du monde agricole, ils savent ce qu'on a mis sur la table, et force est de constater que ça n'arrive pas dans la cour des fermes.
Mais là s'il y a des producteurs qui nous écoutent, il faut faire, ils en ont ras-le-bol, Michel Biro, patron de Lidl, d'entendre ça.
Mais je suis d'accord avec eux et ils ont raison d'en avoir ras-le-bol. Mais une fois de plus, je pense qu'avec 90% de marques de distributeurs, les négociations se passent totalement différemment des marques nationales. Et aujourd'hui, quand je vous dis que la LME pose problème, vous ne pouvez pas, au niveau international, négocier des services sans même prendre en compte, quand un acheteur, c'est même plus un acheteur pour moi, négocie des services à l'international, je suis désolé, à aucun moment il est question de matières premières agricoles, à aucun moment, et encore moins des revenus des éleveurs.
Mais est-ce que vous êtes d'accord que ces négociations sont cette année encore plus compliquées à cause de la crise ? Parce que certains industriels sont en difficulté, les producteurs sont en difficulté, et que vous, grands distributeurs, vous voulez réussir à au minimum ne pas augmenter les prix pour réussir à garder vos clients.
Mais que la distribution ne veuille pas augmenter les prix, ok, je l'accepte. Et je suis le premier à le dire, il faut défendre le pouvoir d'achat du Français. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut encore une fois plus taper sur les éleveurs. Donc si l'industriel montre la transparence, rogne un peu sur ses marges et que le distributeur rogne un peu sur ses marges, moi je dis, vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher.
Alors justement,
l'équation est possible.
Justement, il y a un produit que vous ne vendez pas cher, c'est ce qu'on appelle le Monsieur Cuisine, qui est le grand concurrent du Thermomix. Ce Monsieur Cuisine a été interdit en Espagne parce que vous auriez volé les brevets du Thermomix et une procédure est en cours en ce moment en France. C'est bientôt fini le Monsieur Cuisine en France ?
Écoutez, c'est pas à moi de donner cette réponse parce que je ne l'ai pas. Effectivement, vous avez raison, il y a une procédure en cours. La décision juridique qui a été prise en Espagne ne concerne et n'impacte absolument pas la France. Donc on peut tout à fait continuer à vendre des Monsieur Cuisine à l'heure qu'il est. Et c'est à la justice de trancher. Et je n'irai pas plus loin dans les commentaires, étant donné que l'affaire est en cours, le contentieux est en cours, donc je n'ai pas à le commenter.
Eh bien, ce sera l'occasion de vous rappeler. Merci beaucoup, Michel Biro. Un grand merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes l'un des patrons de Lidl. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous nous parlerez bricolage avec le leader européen du secteur, le patron de Mano Mano.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux qui sont nombreux à revenir sur la conférence de presse ce soir de Jean Castex. 20 départements surveillés, la vaccination encore accélérée, titre Ouest France. L'exécutif renforce sa vigilance à la une de 20 minutes. Confinement, vaccin, les défis du mois de mars peut-on lire dans les échos. Mais c'est un autre titre du journal économique qui attire l'attention. Le courrier pèse désormais moins de 20% des revenus de la Poste avec la crise sanitaire et les deux vagues de confinement national, le volume total de courriers a chuté de 18% l'an dernier, un rythme très supérieur à celui des années précédentes. Voilà pourquoi l'activité historique du groupe ne représente plus qu'un cinquième de son chiffre d'affaires. Même la forte poussée de l'activité colis, conséquence là aussi du Covid, ne compense pas totalement un tel décrochage. Théorie du genre, décolonialisme, racialisme, ces nouveaux dogmes qui veulent s'imposer en France, c'est le titre à la une du Figaro. La querelle sur l'islamo-gauchisme qui fait rage en France depuis les déclarations de la ministre de l'enseignement supérieur n'est que la face émergée d'un combat beaucoup plus vaste, écrit le journal. Un combat porté par des responsables politiques, des universitaires et des intellectuels d'une mouvance néo-gauchiste qui tente de pénétrer tous les secteurs de la société. Leur programme, mettre fin par tous les moyens à la domination du mâle blanc, selon le Figaro.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ma foi, tout va bien, comme d'habitude.
Tant mieux. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et puis nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash. À tout de suite.